Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Sedoudia, bonjour. La République démocratique du Congo s'enfonce dans la crise politique et l'ONU s'inquiète. Cette crise s'est matérialisée lundi par des violences à l'intérieur du Parlement à Kinshasa, où des députés ont saccagé lundi le mobilier, chaises et pupitres à la tribune de la salle des séances. La veille, le président Tshisekedi avait annoncé la fin de la coalition qu'il formait depuis janvier 2019 avec la majorité parlementaire de son prédécesseur Joseph Kabila. Eddy Issango fera le point dans quelques instants. Les Ghanéens ont voté lundi pour choisir leur président dans un duel où s'affrontaient le président sortant Nana Akufo-Addo et son prédécesseur et rival de toujours John Mahama. Un scrutin où le pays joue sa réputation de modèle démocratique en Afrique de l'Ouest. Ce sera tout à l'heure avec Jean-Roger Bion. Au Mali, l'exécutif de transition a donné lundi des nouvelles de son président Bandao sur les réseaux sociaux après plusieurs jours d'une mystérieuse absence, source de spéculation dans une période politique et sanitaire incertaine. La présidence a rapporté sur Facebook et Twitter que M. Bandao avait pris part par visioconférence à un conseil d'administration de Smart Africa, un partenariat entre pays africains pour accélérer le développement grâce aux technologies d'information et de communication. Elle a publié des photos de Bandao assis à un bureau, masque sur le visage, pour se protéger du COVID-19. Les États-Unis ont ajouté lundi le Nigeria à leur liste noire des pays particulièrement préoccupants en matière de liberté religieuse, considérée comme la première des libertés par le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo. Et quand elle est menacée, nous agissons, a-t-il prévenu. M. Pompeo n'a pas précisé les raisons de la mise à l'index du Nigeria, qui avait été déjà placé sous surveillance en 2019. Les autres pays de la liste sont les mêmes qu'en 2019, Arabie Saoudite, Birmanie, Chine, Corée du Nord, Érythrée, Iran, Pakistan, Tadjikistan et Turkménistan. La France et le Maroc ont signé lundi à Rabat un accord pour faciliter le retour des migrants mineurs dans leur pays d'origine. Comme d'autres pays européens, la France a récemment intensifié ses efforts pour le renvoi des migrants en situation irrégulière. Les procédures pour les moins de 18 ans sont les plus complexes du fait de la protection dont jouissent tous les mineurs, notamment avec la Convention internationale des droits de l'enfant. De précédentes tentatives de l'Espagne et de la Suède pour faciliter le retour des mineurs au Maroc n'ont pas abouti. COVID-19, 20 millions de Californiens se sont confinés lundi, tandis que le Royaume-Uni lance ce mardi une campagne massive de vaccination, la première en Occident. Abdourahman Dia nous donnera plus de détails. Les camions et les avions cargo sont prêts pour la distribution des doses de vaccins contre le COVID-19 aux États-Unis. Une complexe opération logistique dirigée par un général, mais dont la cadence sera finalement plus lente que prévue dans les premiers mois. Sur le plan politique, toujours aux États-Unis, le président élu Joe Biden aurait choisi, selon plusieurs médias américains, l'ancien général Lloyd Austin pour diriger son futur ministère de la Défense. Il deviendrait, s'il était confirmé par le Sénat, le premier chef africain-américain du Pentagone. Les États-Unis ont annoncé lundi de nouvelles sanctions contre Pékin au moment où la fermeté contre la Chine érigée en plus grande menace pour la démocratie semble faire l'objet d'un consensus grandissant entre l'équipe du président sortant Donald Trump et la future administration Biden. Ces sanctions visent 14 hauts responsables du Parlement chinois pour leur rôle dans l'adoption d'une loi sur la sécurité nationale controversée. La suite de nos informations. Les Ghanéens ont voté lundi pour choisir leur président dans un duel entre le sortant Nana Akufo-Addo et son prédécesseur et rival de toujours John Mahama. Un scrutin où le pays joue sa réputation de modèle démocratique. Le point avec Michel Joseph.
Plus de 17 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour choisir entre 12 candidats à la magistrature suprême, dont 3 femmes, et élire leurs 275 députés. Le dépouillement des bulletins de vote a immédiatement commencé après la fermeture des bureaux de vote. La présidentielle ghanéenne se joue une fois encore et pour la troisième fois consécutive entre John Mahama, 62 ans, et Nana Akufo-Addo, 76 ans. Le vainqueur devra remporter plus de 50% des suffrages. Le Ghana n'a jamais connu de second tour, les plus petits partis dépassant rarement les 1% des voix. En votant à la mi-journée à Kébé, dans l'est du pays, Nana Akufo-Addo, président sortant et candidat du nouveau parti patriotique, NPP, s'est dit bien content du déroulement des opérations. Lors d'une conférence de presse, le Congrès national démocratique, NDC, le parti de John Mahama, a appelé tous les militants et les Ghanéens à rester vigilants et à se rendre dans les bureaux de vote pour surveiller le dépouillement. Adversaires politiques historiques, ils se sont toutefois engagés à respecter les résultats et à garantir la paix et la sécurité. Les résultats sont attendus dans les 24 heures suivant le scrutin, mais la commission électorale a fait savoir dimanche que ce délai n'était pas inscrit dans le marbre.
L'épidémie de coronavirus continue son expansion aux États-Unis, où 20 millions de Californiens sont de nouveau appelés à se confiner, tandis que le Royaume-Uni lance mardi une campagne massive de vaccination. Abdulrahman Dia.
Au Royaume-Uni, les premières doses de vaccins vont commencer à être administrées aujourd'hui, mais la majorité de la population britannique devra attendre 2021. La priorité est donnée aux résidents et personnels des maisons de retraite, suivis ensuite par les soignants et les plus de 80 ans. La distribution du vaccin sera en marathon et pas en sprint, selon le directeur médical du service public de santé, Stephen Powys. La Belgique, la France et l'Espagne prévoient des campagnes de vaccination en janvier, en commençant par les personnes les plus vulnérables. Samedi, la Russie a commencé à administrer son vaccin, le Sputnik V, à des travailleurs sociaux, du personnel médical et des enseignants à Moscou. Ici aux États-Unis, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a déclenché de nouvelles mesures de confinement entrées en vigueur lundi. Plus de 85% des lits de soins intensifs sont occupés dans cet État. La Californie fait face à un troisième rebond de l'épidémie. Les États-Unis restent le pays le plus touché avec plus de 282 300 décès et près de 15 millions de cas recensés. La pandémie a fait au moins 1 500 000 morts dans le monde et contaminé plus de 67 millions de personnes.
La République démocratique du Congo s'enfonce davantage dans la crise politique. Celle-ci s'est matérialisée lundi par des violences à l'intérieur même du Parlement, au lendemain de l'annonce par le président Félix Tshisekedi de la fin de la coalition au pouvoir depuis janvier 2019. Le point avec Eddy Issango.
À Kinshasa, des députés ont saccagé hier les mobiliers à l'intérieur de l'Assemblée nationale. La plateforme Cap pour le changement, cash de Félix Tshisekedi, avait lancé une pétition pour la démission du bureau de l'Assemblée nationale et de sa présidente, la très pro-Kabila Jeannine Mabunda. Le président Félix Tshisekedi a annoncé dimanche la fin de la coalition au pouvoir qu'il formait avec la majorité parlementaire de son prédécesseur, Joseph Kabila. Il a aussi annoncé annoncé qu'il souhaitait une nouvelle majorité, faute de quoi il s'est réservé la possibilité de dissoudre la Chambre basse. Le Front commun pour le Congo a condamné les décisions unilatérales du président, rappelant qu'il avait la majorité absolue avec 338 députés sur 500. Le premier ministre Sylvestre Ilunga, un fidèle de Kabila, a été reçu hier en audience par le chef de l'État à la demande de celui-ci, précise la primature. Le pays ne peut pas se permettre une crise institutionnelle grave, a déclaré Leila Zerougui, émissaire de l'ONU pour la RDC.
La Minute Écho, Nathalie Barge.
Ouverture ce mardi en République démocratique du Congo d'une adjudication des bons du Trésor pour 15 milliards de francs congolais. Ces titres sont à souscrire ce 8 décembre avant 11 heures auprès de la Banque centrale du Congo, indique un communiqué du ministère des Finances. Depuis le 30 septembre, le gouvernement et la banque ont élargi à tout public la souscription aux bons du Trésor. La RDC a lancé ses opérations l'an dernier afin de faire face à ses dépenses publiques élevées. Une stratégie de promotion des investissements en République du Congo a été validée hier. Cette feuille de route s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au développement des entreprises et de la compétitivité et du projet d'appui au climat des investissements et à la gouvernance sectorielle forêt-bois. Ces cinq dernières années, l'investissement privé a chuté de plus de 4%, alors que la contribution de ce secteur à l'emploi est estimée à 30%. 10 créateurs de start-up africains seront départagés lors de la conférence digitale Emerging Méditerranéenne le 14 décembre. Les 5 lauréats recevront 7000 euros et intégreront un programme d'accompagnement. Parmi les 10 finalistes figurent notamment les start-up mauritaniennes Smart System Service et Dadou VDP, spécialisés dans le traitement des données numériques.
L'espoir à présent avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Les meilleurs ennemis, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, ont l'occasion de se retrouver pour la première fois ce soir en Ligue des Champions. Depuis que CR7 a quitté le Real Madrid, un test positif au Covid-19 avait empêché la superstar portugaise de prendre part au match aller à Turin, remporté 2-0 par les Blaugrana. En bas, le Dynamo Kiev reçoit Ferencváros pour la troisième place qualificative pour la Ligue Europa. Les Red Devils de Manchester United jouent leur place en huitième de finale à Leipzig. Un nul qualifie Man U et une défaite les envoie en Ligue Europa. Le PSG reçoit le Başakşehir Istanbul qui joue pour l'honneur. Les deux néophytes en Ligue des Champions, Krasnodar et Rennes, termine l'aventure avec un match pour l'honneur dans ce groupe. Les Russes, troisième reversé en Ligue Europa, vont défier le leader Chelsea, de l'énorme gardien sénégalais Edouard Mendy et de l'ailier marocain Hakim Ziyech. Les Français reçoivent, eux, Séville. À suivre aussi Zenit Saint-Pétersbourg, Borussia Dortmund, Lazio Rome, FC Bruges. Le comité international olympique a suspendu le président belarusse Alexandre Loukachenko de toutes les manifestations et activités du CIO, y compris les Jeux olympiques, à cause de la discrimination politique frappant les athlètes du pays. Fin septembre, la basketteuse belarusse Yelena Lutsenko, 37 ans, a été condamnée à 15 jours de prison pour avoir participé aux manifestations contre Alexandre Loukachenko. Dès la fin août, plus de 300 sportifs de haut niveau, dont plusieurs médailles olympiques et membres d'équipes nationales, ont dénoncé dans une lettre ouverte le trucage des votes dans l'élection présidentielle revendiquée par M. Loukachenko. La commission exécutive du CIO a conclu, je cite, que la direction actuelle du Comité national olympique du Bélarus, présidée par le chef de l'État, Alexandre Loukachenko, n'a pas protégé de manière appropriée les athlètes contre cette discrimination politique. Ici aux États-Unis, la franchise NBA de Portland a fermé son centre d'entraînement après plusieurs cas de COVID-19, a déclaré l'entraîneur des Trail Blazers, Nell Olshey, à 2 semaines de la reprise de la saison régulière. Sur les 4 derniers jours, nous avons eu 3 cas de COVID-19, a-t-il détaillé dans un communiqué. Cette décision intervient alors que Portland devait débuter sa pré-saison vendredi à domicile face aux Kings de Sacramento et disputer son premier match de saison régulière le 23 décembre à domicile contre le Utah Jazz. Les rencontres se dérouleront sur les parquets des équipes et non plus dans une bulle confinée à huis clos, comme ce fut le cas pour la fin de la saison 2019-2020.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Seloudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Crise en République démocratique du Congo, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Leila Zerougui, a mis en garde contre une escalade qui amènerait le pays dans une situation incontrôlable. Comme Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, quelques voix s'élèvent pour demander un dialogue de toutes les parties prenantes. Eddy Issango a joint à Bruxelles le président de la coalition des Congolais pour la transition, Emery Damien Kalwira.
C'est une situation très inquiétante. Le Congo et son peuple sont en train de faire face aux conséquences des élections chaotiques de 2018. Et là, nous sommes donc au bord d'une guerre civile. Le Congo est au bord d'un désastre et nous devons très rapidement nous arrêter, nous ressaisir pour trouver une solution politique négociée. La première solution, c'est une solution intermédiaire qui passe par un dialogue élargi, des négociations politiques élargies, donc un dialogue global et inclusif qui s'étend à l'ensemble des acteurs politiques nationaux. Nous devons tous nous retrouver autour de la table pour sauver le Congo du chaos et des disparitions.
Mais déjà, il n'y a plus coalition, comme vous l'avez dit. Le président a déclaré que la coalition s'était émiettée. Mais que va-t-il se passer maintenant si c'est confirmé que le président de la République demande au Premier ministre de démissionner et que celui-ci, avec sa famille politique, refuse?
Nous sommes en face d'un monstre à deux têtes. Et un monstre à deux têtes, il est toujours condamné à mourir. Un enfant bicéphale né avec deux têtes, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, il est condamné à mourir. Mais nous ne voulons pas que cette coalition meure et emporte l'ensemble du pays et l'État qui s'effondre. Vous êtes sans ignorer qu'en dehors de la crise économique et sociale qui atteint son paroxysme, le Congo aussi est en proie à l'insécurité généralisée. L'État est quasiment absent depuis cette coalition qui est morte. Donc il y a des morts au Congo partout, l'État est quasiment inexistant et donc nous devons très rapidement aller à des négociations directes, nous tous.
Quel format pourrait-il être acceptable par tous? Le président a organisé des consultations, vous-même vous n'y êtes pas allé, les FCC, une partie de la MOUCA et beaucoup d'autres acteurs ne sont pas allés. Déjà, on a remarqué que c'est du cash du côté du président de la République. Mettez en garde les évêques qui avaient initié un dialogue parallèle aux consultations.
Nous devons avoir autour de la table l'opposition non institutionnelle, notamment la CCT et les autres forces qui avaient boudé et boycotter les fausses élections de 2018. L'opposition minoritaire qui siège dans les institutions. Et au premier rang desquels, ou à la tête de cette opposition, se trouve Martin Fayoulou, qui lui aussi continue de dire qu'il est le vrai vainqueur de cette élection de 2018. Nous devons ensuite voir libre M. Kamere, qui est un prisonnier politique. Et nous devons enfin voir sur la table cette fameuse coalition FCC-CACH. Tous à la table, pas pour nos intérêts personnels, mais pour l'intérêt supérieur de la nation, pour le salut du Congo. Nous allons arriver à un accord, à un pacte national signé de nous tous et convenir d'une commission ou d'un conseil électoral réellement indépendant et instauré consensuellement, une structure judiciaire spéciale chargée de surveiller et de certifier les élections, et à la fin, nous irons aux élections et seul le peuple qui est le souverain primaire déterminera les dirigeants.
Mais le dialogue dirigé par qui?
Par le prix Nobel de la paix que nous avons, qui n'est pas politique, par l'Église catholique, par l'Union africaine.
Emery Damien Kalwira au micro d'Eddy Issango.
Mandia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, Félix Tshisekedi rompt avec le FCC de Joseph Kabila et veut une recomposition de la majorité parlementaire avec la nomination d'un nouvel informateur. Une décision qu'il a prise à l'issue des consultations politiques lancées le mois dernier. Les alliés de l'ex-président, toujours majoritaire au Parlement, disent avoir pris acte. Quelles sont les options du président Tshisekedi pour obtenir une majorité parlementaire? Quelles conséquences politiques de ce bras de fer FCC cache? Nous discuterons de tout cela avec nos invités ce jeudi 10 décembre 2020 à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com.
Au Gabon, le Covid-19 bouleverse l'agenda culturel du pays. Le festival Gabon 9 provinces, lancé depuis plus de 2 mois en mode virtuel, bute sur des problèmes de financement. L'événement est même boudé par les artistes. Reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
Les décibels que vous entendez proviennent d'un mini-spectacle en plein air devant l'Institut français de Libreville. Il s'agit d'un concours de breakdance et de hip-hop organisé par un groupe de jeunes promoteurs de danse urbaine. Le rendez-vous soumis à des règles de distanciation sociale en plein Covid-19 est à sa seconde édition. Jean-Hussein Bikoro, co-organisateur du gala de danse urbaine.
Nous n'avons pas eu de sponsor. Et l'Institut français du Gabon qui nous a prêté son espace l'a prêté gracieusement. Donc nous n'avons pas une contrepartie financière pour nous soutenir dans ça.
Les cris de détresse des créateurs d'œuvres de l'esprit sont les mêmes partout, y compris chez les artistes des chants chrétiens. Marcelin Landon Abessolo est auteur-compositeur.
Toutes les cérémonies qui tournent autour de la vie chrétienne sont presque suspendues. Ce qui fait que les groupes sont abandonnés à eux-mêmes. Et je suis en train de vouloir mettre en place un nouvel album. Et pour le moment, les choses se compliquent davantage.
D'après les médias locaux, la diffusion des productions d'artistes étant conditionnée au respect des droits d'auteur, il devient difficile de leur offrir des espaces. Alexis Pierre Zassi, directeur de programme à Radio Gabon.
Avec le Bureau gabonais des droits d'auteur, ces artistes pourraient bénéficier de leur dû en diffusant cette musique à la radio.
Ça veut dire que votre marge de manœuvre est réduite, quand bien même il y a la volonté d'aider les artistes.
Vous réduites peut-être sur le plan pécunier. Nous avons ouvert nos antennes aux artistes. Quitte aux artistes maintenant à eux de venir vers Radio Gabon. Mais ce qui est un peu dommage, c'est que tout s'intéresse à l'image.
Le secteur ne se portait pas déjà mieux avant la crise sanitaire. C'est l'occasion d'une profonde introspection avant un possible redémarrage des activités. Dominique Douma est un intarissable chantre du théâtre gabonais.
À quelque chose, malheur est bon. Moi, je me suis lancé dans l'écriture. J'ai le roman Moueni qui est sorti, Vokuna qui est sorti. Et là, je viens de terminer 8 nouvelles pour l'apparition de mon recueil de nouvelles. Que ça m'a permis d'écrire, d'avancer aussi quelques pièces de théâtre que je suis en train de préparer.
Par ailleurs, plusieurs artistes gabonais ont appelé au boycott du festival Gabon 9 Provinces qui devait se dérouler en octobre dernier sous un format virtuel en raison de la pandémie. Faute d'une communication officielle sur la nouvelle date de l'événement, beaucoup pensent à un aveu d'échec de la part du ministère de la Culture. Libreville, Ismaël Obiangze pour VOA Afrique.
Après la Russie ce week-end, le Royaume-Uni lance ce mardi une campagne massive de vaccination, la première en Occident. La Belgique, la France et l'Espagne prévoient des campagnes similaires en janvier. L'Indonésie a reçu dimanche de Pékin une première livraison de 1,2 million de doses de vaccins et une livraison de 1,8 million de doses supplémentaires est attendue le mois prochain. Eric Manirakidza a joint à Paris la chercheuse et co-directrice de l'Observatoire de la Santé mondiale, Dr Anne Sénéquier.
Chaque campagne de vaccination va déjà travailler à reprendre une vie normale dans son pays, mais vous avez raison, il faut avoir cette approche globale. Après, il faut quand même être relativement objectif et ne pas s'attendre à un retour à la normale dès mi-janvier. Ça va prendre du temps pour justement lancer les campagnes de vaccination. Les personnes prioritaires sur ces vaccins, les personnes âgées, les personnel soignant. Et aussi, il va falloir lutter contre la tendance anti-vaccination que l'on retrouve de manière assez générale de par le monde. Donc, il y a aussi les délais pour avoir des doses de vaccin. Tout le monde ne sera pas servi, malgré ce qu'on a pu entendre au cours de cette année en même temps. Donc, on va avoir finalement une campagne de vaccination au niveau mondial qui va s'étaler sur tout 2021. Donc, une vie publique normale, oui, parce que c'est clairement l'objectif de rompre la chaîne de transmission et de pouvoir reprendre nos activités, qu'elles soient culturelles, professionnelles ou personnelles. Je pense que on peut, de manière optimiste et relativement objective, envisager une rentrée 2021, septembre 2021, avec une petite senteur de normalité.
C'est quand même un début de vaccination inédit. Jusque-là, on a eu des autorisations d'urgence. Aucun vaccin n'est homologué à 100%.
C'est vrai qu'on est encore dans la phase 3 pour la totalité des vaccins qui sont aujourd'hui mis sur le marché. Et aujourd'hui, si problématique il y a, serait plutôt sur un manque d'efficacité à long terme. Donc pour l'instant, on fait le pari d'une efficacité sur quelques mois pour au moins rompre ces chaînes de transmission. Et effectivement, au fur et à mesure des mois qui passent, on va pouvoir affiner la visibilité sur ces résultats-là.
L'Afrique, c'est le continent où on ne parle pas encore de vaccins. Comment vous envisagez cette campagne sur le continent noir?
La vaccination en Afrique va se faire à travers le consortium de l'ONU qui est COVAX, à travers l'accélérateur sur la recherche contre le Covid. Donc c'est à travers l'ONU où finalement il y a eu un financement global pour permettre aux pays à revenus faibles et intermédiaires d'avoir accès à ces vaccins. Et il est fort probable finalement qu'ils soient les deuxièmes sur la ligne d'arrivée pour l'accès aux vaccins après les pays qui ont acheté les vaccins avec des accords bilatéraux avec les industries.
Docteur Anne Sénéquier, chercheuse à l'IRIS et co-directrice de l'Observatoire de la Santé Mondiale.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Républicains et démocrates ici aux États-Unis travaillent sans relâche pour mobiliser les électeurs de la Géorgie en vue du second tour du scrutin le 5 janvier qui va déterminer le contrôle du Sénat américain. Mais les républicains sont également divisés sur les résultats de la présidentielle du 3 novembre, le président Donald Trump affirmant toujours qu'il y a eu fraude généralisée. Reportage de Michel Quinn, récit de Lionel Gahim.
La pression monte dans l'État de Géorgie, dans le sud des États-Unis. Démocrates et républicains encouragent les électeurs à commencer à voter dès le 14 décembre pour le second tour des deux sièges âprement disputés au Sénat américain. Les résultats de ces élections du 5 janvier vont déterminer quel parti politique aura la majorité au Sénat. Le président Donald Trump s'est lui-même rendu sur place, appelé à la mobilisation de sa base républicaine.
L'enjeu de cette élection est le contrôle du Sénat américain et cela signifie vraiment le contrôle de ce pays.
L'ancien président démocrate Barack Obama a lui aussi rappelé les enjeux de ces deux sièges au Sénat.
Les élections spéciales en Géorgie vont déterminer en fin de compte le cours de la présidence de Biden et si Joe Biden et Kamala Harris peuvent respecter par la voie des urnes tous les engagements qu'ils ont pris.
Pour les républicains, les sentiments sont partagés quant à l'intégrité du système électoral de cet État qui a toujours voté en leur faveur. Le démocrate Joe Biden y a remporté la présidentielle par environ 12 000 voix d'avance. Le président Donald Trump a appelé le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, un républicain, pour demander à la législature de l'État d'annuler ses résultats et d'ordonner un audit des bulletins de vote par correspondance. Lors d'un rassemblement ce week-end en Géorgie, M. Trump, qui refuse de considérer la défaite, encourage vivement les électeurs dans cet État à aller voter.
Vous devez aller voter, et voter tôt, à partir du 14 décembre, vous devez le faire. Ils ont triché, ils ont truqué notre élection présidentielle, mais nous continuons de gagner, nous la gagnerons toujours.
Ce message mitigé complique la tâche de certains dirigeants de la Géorgie, dont beaucoup sont républicains, comme le gouverneur Brian Kemp et le secrétaire d'État Brad Raffensperger, qui supervise le système électoral de l'État.
Le travail du Parti républicain est de collecter des fonds et de voter. Mon travail en tant que secrétaire d'État consiste à m'assurer que nous avons des élections justes et équitables. C'est aussi simple que ça et je pense que pour mon bureau, l'intégrité a de l'importance.
Raffensperger ajoute que la désinformation autour des résultats de l'élection présidentielle complique les efforts des républicains pour remporter le vote.
Eh bien, ça rend les choses, ces distractions, cette désunion, ça rend les choses plus difficiles et les candidats mènent une course difficile.
Dans les semaines à venir, tous les yeux seront tournés vers la Géorgie qui va déterminer le 5 janvier qui aura le contrôle du Sénat américain.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sédoudia et de Michel Joseph à la mise en œuvre.